Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Ça va? On aime l'événement qui se produit présentement? Bon, moi aussi. Ce matin, nous sommes tous témoins d'un merveilleux événement. Le baptême de deux personnes. Et c'est très intéressant parce que la Bible nous dit qu'au ciel, il y a de la joie quand des pécheurs se... C'est ça, quand des pécheurs se repentent. Quand un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Ce matin, il n'y a pas un pécheur qui s'est repenti, il y en a deux. Deux pécheresses ou pécheurs se sont repentis. Et elles viennent de témoigner leur repenti en passant par les eaux du baptême. Vous avez été témoins de ça. Alors, non seulement c'était un événement merveilleux sur la terre, mais c'est aussi un événement glorieux dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Et ce matin, alors ensemble, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour regarder ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela. Moi, je ne sais pas qui tu es. Probablement, tu es quelqu'un de bon, quelqu'un qui est apprécié de tout le monde. Ou probablement, tu es quelqu'un aussi de mauvais, que tout le monde en parle, comme on parle de ceux qui sont bien dans ton entourage. À tort ou à raison, moi je ne le sais pas. Et peut-être que tu penses toi-même que tu es bon foncièrement. C'est que tu penses de toi-même, tu as une bonne opinion de toi ou tu as une trop haute opinion de toi-même. Mais tout cela peut être vrai de la part des hommes ou de toi-même. Mais dans l'ensemble, quand nous regardons dans les Écritures, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Je peux avoir une haute opinion de moi-même. Et cependant, Dieu en a autre que différent, qui est différent de la mienne, n'est-ce pas? Alors, souvent, on peut dire, les gens, ils me jugent mal. Les gens, ils m'ont pas noté bien à l'école. Parce que le professeur, il n'aime pas ma tête. Et parce que la dame, là, ou bien telle personne a fait ceci. Mais ici, ça, c'est, nous voulons regarder tout cela sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi et moi? Qu'est-ce que Dieu dit de sa création? Qu'est-ce que Dieu dit de notre société? Amen. Alors, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, ici, quand on dit grec, on veut parler de toutes les autres nations qui ne sont pas de la nation juive. Ils sont tous sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et tous sont égarés, et tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je m'arrête là. Quand Dieu regarde la terre, qu'est-ce qu'il voit? Quand Dieu nous passe dans son scanner, quand tu vas à l'hôpital pour te faire soigner, on te fait passer dans le scanner ou on te fait faire des radios, on fait des prises de sang pour arriver à trouver ou à établir l'état de ta santé, n'est-ce pas? Alors quand Dieu nous passe dans son scanner, voilà ce qu'il voit. Il trouve que nous sommes tous malades, que nous avons tous des bobos. Et ces bobos-là sont tellement graves qu'il n'y a pas de remède pour cela. Et quand tu vas à l'hôpital, on dit tu es atteint de cancer. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Cancer généralisé, là, quand on dit c'est généralisé, les médecins ne peuvent plus ouvrir ta bédaine. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire plie tes bagages. Prépare ta valise parce que tu passes de l'autre côté, n'est-ce pas? Ça voudrait dire qu'on ne peut plus rien pour toi. Alors, donc, Dieu nous dit ici dans sa parole que quand il nous regarde, nous sommes tous malades. Chronique. Et il n'y a pas de remède parmi aucun humain, ni toi, ni moi. Aucun hôpital ne peut te soigner. Aucun médecin ne peut soigner ton problématique. Il dit, on est malade. Il n'y a pas un seul qui est juste. Il dit, il n'y a pas de juste. Même pas nos procureurs, même pas nos avocats et nos notaires, même pas nos chefs d'État, même pas moi-même qui est devant vous, aucun n'est juste. Tous sont pécheurs. C'est ce que Dieu dit. Il dit, il n'y a rien qui cherche Dieu, aucun. Ils ne font même pas de bien. C'est-à-dire que personne ne fait assez le bien qui peut répondre aux exigences de Dieu pour nous permettre de rentrer dans son paradis. Donc, dans ce cas, on est tous faits à l'os. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La raison, nous sommes tous coupables parce que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la présence de Dieu. Nous sommes privés de passer de temps devant Dieu. Nous sommes inacceptables dans la présence de Dieu dans ces conditions-là. Car tous ont péché. C'est ce que l'Écriture nous dit. On dit l'homme le plus juste parmi nous, même ses œuvres, il ne peut pas les présenter devant Dieu. Ésaïe confirme cela dans Ésaïe 64, verset 5. Il nous dit que notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire que ce que toi tu penses te glorifier avec et dire « ça là, personne n'a le mot à dire. Moi là, je suis correct ici. » Mais on dit que quand on le présente devant Dieu, ça ne vaut absolument rien. Si notre justice à nous ne vaut rien devant Dieu, si notre droiture n'est pas, ne remplit pas les conditions de Dieu, alors la question que nous pouvons nous poser, comment pouvons-nous être sauvés? Comment pouvons-nous entrer dans sa présence? C'est notre Créateur et nous voulons aller avec lui. Mais il nous dit que nous ne pouvons pas à cause du péché qui est dans notre vie. Alors la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? On va avoir tous notre définition du péché. Mais la Bible nous dit ici, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, verset 4, il dit le péché c'est la transgression de la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a point de transgression. La transgression de la loi, c'est rien d'autre. Quand tu sortiras d'ici et que tu ne respectes pas le feu rouge, que tu ne respectes pas le stop, la police est là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Ticket, $300. C'est pas un cadeau, ça. Alors, et c'est ça. Et là, tu as transgressé la loi. Alors, le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la désobéissance volontaire. C'est une désobéissance volontaire qu'on fait face à la révélation de Dieu. Je refuse volontairement d'obéir à une révélation claire de la part de Dieu. Dieu me dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas d'aimer mon prochain comme moi-même et d'aimer l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force, de ne pas me prosterner devant autre Dieu, autre chose que lui, l'Éternel des armées. Dès l'instant que j'adore autre chose que Dieu, je suis coupable. Je suis pécheur. Alors ce matin, mon but est de t'amener à comprendre que si tu penses que tu n'es pas pécheur, la Bible dit totalement le contraire. Dieu dit que tu es coupable et que tu as besoin de lui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si le péché c'est la transgression de la loi et que nous sommes tous coupables devant Dieu, alors ça voudrait dire quoi? Les conséquences du péché c'est quoi? Nous venons de voir que nous sommes coupables, que Dieu nous dit que nous sommes coupables et que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Alors les conséquences du péché, c'est quoi? Premièrement, ça nous éloigne de Dieu, ça nous sépare de Dieu parce que Ésaïe 59, 2 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et nos crimes qui l'empêchent de nous écouter. » C'est ce que Ésaïe nous dit. Donc le péché met une séparation entre toi et Dieu, t'empêche de t'approcher de lui. Le péché te prive de la gloire de Dieu, t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu, de communier avec Dieu. Et cela nous dit dans Romains 3, 23. Et dans Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Quand tu travailles, ton patron te donne un salaire, mais quand tu pêches aussi, Dieu dit que tu as un salaire. Et je vous assure que ça m'a terrorisé quand je suis devenu chrétien. J'étais musulman avant de devenir chrétien. Ça m'a terrorisé. comprendre que le salaire, le péché a un prix. Et quand tu commets, on te donne le salaire de ton péché. Ça m'a terrorisé. Ce matin, Dieu nous invite à venir à lui. Nous venons de voir Maya et Jaël qui se sont fait baptiser. Elles se sont fait baptiser tout à l'heure à preuve de leur engagement. La preuve de leur engagement avec Dieu. Mais toi et moi, si tu es dans cette condition de péché, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de solution pour toi à première vue. Mais dans un second, il y a une solution. Mais ce n'est pas une solution qui est humaine. C'est une solution divine. C'est une solution où toi, tu ne peux rien faire pour plaire à Dieu, pour satisfaire les exigences de Dieu, pour qu'il t'accepte dans son ciel. Dans la société, nous disons souvent, je vais faire ce que je veux. Nous sommes dans une société où on est capable de tout faire. Mais sauf qu'ici, dans la parole de Dieu, on est capable de rien faire. C'est lui qui fait tout. Et la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de l'accepter. Si tu penses ce matin que tu es un pécheur, comme moi je l'étais, comme certains d'entre nous l'étaient, la parole de Dieu te donne l'occasion de pouvoir te repentir et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur. Cela est simple. L'Écriture nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, ça voudrait dire que si je reconnais que je suis un pécheur, maintenant, ça ne suffit pas de reconnaître que je suis un pécheur. Tu viens de faire un bon pas. Le fait de savoir que tu es un pécheur, que tu ne peux te sauver par toi-même. Maintenant, le deuxième pas que tu dois faire, c'est de l'avouer. Je reconnais, je confesse, je le déclare, je le dis, je l'admets, je suis coupable. Alors confessez. Et l'Écriture nous dit dans Proverbe 28, 13, il dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ce matin, est-ce que tu veux avoir la miséricorde de Dieu? Est-ce que nous voulons la miséricorde de Dieu? Moi, il y a 29 ans de cela, bientôt 30 ans, j'ai bénéficié de cette miséricorde de Dieu. Il m'a fait grâce. C'est pourquoi ce matin, je peux me tenir devant vous pour partager cela aussi. Dieu m'a fait grâce. Dieu peut te pardonner ce matin. Est-ce que tu veux cela? Reconnaître mon péché, le confesser, l'avouer, et me détourner de mon péché. Il ne suffit pas de reconnaître. Il ne suffit pas de le dire et de continuer de vivre dedans. Mais c'est de prendre l'engagement de dire, oui, je reconnais mon péché, Seigneur, je l'avoue, je te demande pardon, lave-moi et je donne dos totalement à mon péché. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est changer de but, c'est changer de direction, c'est changer de mentalité, c'est changer de pensée, la façon de penser par rapport à Dieu. Je ne marche plus dans les mêmes choses. Je cherche à vivre une vie authentique qui plaît à Dieu. Parce que l'Écriture nous dit que l'âme qui pèse, c'est celle-là qui mourra. Alors maintenant, avec Jésus-Christ, je peux avoir la possibilité d'être sauvé. La Bible nous déclare cela en disant, dans Jean 5, 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Tu peux passer ce soir et ce matin de la mort à la vie. Sans Dieu, tu es mort. Tu peux être vivant, charnellement, mais à l'intérieur de toi, tu es mort parce que ta communion avec Dieu est coupée. Il n'y a aucune communion entre toi et la personne de Dieu. Tu es vu comme ennemi de Dieu. Mais maintenant, tu peux passer de l'état d'ennemi de Dieu à être ami de Dieu. En acceptant le sacrifice de Christ à la croix, Jésus est venu mourir pour nos péchés. Et c'est comme ça que Dieu manifeste son amour envers nous. Romains 5:8 nous dit, car Dieu approuve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Dieu ne s'est pas contenté de te dire qu'il est fâché après toi. Il ne s'est pas contenté de te présenter ton état de péché, le diagnostic qu'il vient de faire sur toi. Il te dit, je te donne une porte de sortie. Tu peux devenir mon ami. De l'ennemi, tu peux passer à mon enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 12, 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole de Dieu, elle, Jésus-Christ, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit clairement. Tu peux devenir enfant de Dieu ce matin et passer par les eaux du baptême comme Maya et Jaël l'ont fait et tu rentres dans la famille de Dieu par le fait que tu as accepté de te repentir. Le baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le baptême est un moyen pour déclarer publiquement ton appartenance à Dieu. Tu as déjà fait le choix de marcher avec Dieu. Mais quand tu viens dans les eaux du baptême, tu dis à tout le monde, « Youhou ! Je fais partie maintenant de la famille de Dieu, moi. » C'est comme un mariage. Connaissez-vous une femme qui aimerait se faire marier dans une salle de bain? 100 personnes? Personne ne veut se marier dans une salle de bain. Tout le monde veut se marier publiquement devant tout le monde. Pourquoi? Parce que ça prend des témoins pour attester que le monsieur, que la madame que tu as mariée est désormais devenu un one-way. Il n'appartient qu'à toi seul. Ou elle n'appartient qu'à toi seul. Donc ça prend des témoins. C'est pourquoi quand on se fait baptiser, nous déclarons notre foi. Mais n'oubliez pas, mademoiselle, vous venez de déclarer votre foi publiquement que vous avez accepté Christ dans votre vie. C'est bien. Nous sommes contents, c'est pourquoi nous sommes là pour fêter cela et nous réjouir avec vous. Nous ne sommes pas les seuls témoins. Il y a quelqu'un d'autre qui a entendu cela qui s'appelle le diable. Désormais, il va vous éprouver. Il va vous dire, vous avez dit devant tout le monde, vous êtes chrétien. Maintenant, quand vous allez sortir de la salle, il va mettre des pots de bananes sur votre chemin pour essayer de vous éprouver pour voir si vous allez tenir ferme à votre foi ou bien vous allez trébucher. Si vous allez abandonner l'engagement que vous avez pris avec Dieu. Alors, s'il vous plaît, tenez debout. Parce que votre foi dépend de Jésus-Christ. La fermeté de votre marche. Parce que l'Écriture nous dit, dans Philippiens 1:6, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cette bonne marche en toi, c'est lui qui va rendre cela parfait. Parfaite. Donc ce matin, n'oubliez pas votre décision. Et toi qui es chrétien depuis des années, tu marches pour Dieu et ta foi est vacillante tout le temps. Jamais tu ne t'es affermi comme il faut. Ta foi est comme les vagues de la mer. Et ta foi chrétienne, elle est là, mais elle est fade comme une sauce sans sel. Elle n'arrive pas à impacter ton entourage. Mais j'aimerais te dire ce matin que tu peux revenir. Tu as le même chemin à faire. Tu peux te repentir de ton péché et ajuster ta foi avec ton Dieu et dire, Seigneur, ça ne va pas. J'ai décidé de marcher pour toi, c'est vrai. Il y a eu des moments difficiles dans ma vie et j'ai perdu de vue ta vision. Je ne me suis pas accroché à toi, je ne suis pas resté attaché à toi, ni à ta parole, ni à ma foi pour pouvoir lire ta parole, pour chauffer ma foi chrétienne, ma vie et être un chrétien vigoureux pour toi. Je suis désolé, papa. Je demande pardon. Fais-moi grâce. Relève-moi. Renouvelle ma foi. Je vais désormais marcher debout pour toi, la tête levée, et non être un chrétien qui marche la tête baissée. Il y a encore la possibilité aussi pour toi ce matin de faire partie de la famille de Dieu. Tu fais déjà partie de la famille de Dieu, mais de te ressaisir et reprendre ton bâton de pèlerin. Un chrétien refroidi peut être réchauffé. Parce qu'on est plusieurs dans la salle qui sommes réchauffés, alors tu peux être réchauffé par la chaleur de la parole de Dieu, par la communion fraternelle, par ton engagement dans le ministère, par tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Alléluia! Alors Dieu veut que tu te lèves. Ne laisse pas l'ennemi te retenir à terre. Lève-toi et marche pour ton Dieu. Quand on marche, il peut y avoir des moments où on peut tomber. Mais la Bible dit, cette fois, le juste tombera. Cette fois, Dieu le relèvera. Amen. Cette fois, il tombera. Cette fois, Dieu le relèvera. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à aller au ciel. Il ne peut pas rester couché. Pourquoi? Parce qu'il a l'identité de Dieu en lui. Le péché peut essayer de miner sa marche, mais il va se tenir debout. Parce que son maître ne permettra pas qu'il reste continuellement à terre. Il se lèvera, il marchera de nouveau vers le ciel. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu es tombé, lève-toi. Dieu veut que tu te lèves. Et nous voulons tous que tu te lèves. Nous ne connaissons pas ton parcours. Tu t'es éloigné de la maison de Dieu. Reviens à la maison. Alors, présentement, mon frère, toi, je reviens à toi, mon frère, ma sœur, qui ne connaît pas le Seigneur. Peut-être, après avoir entendu cela, ton cœur te dit, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux faire? Je vais accepter Jésus dans ma vie. Je veux qu'il soit mon maître désormais. Alors, simplement, je te demande de demander à Dieu ce présentement dans ton cœur, de te pardonner. Avoue-lui tes fautes. Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur, mon maître. J'ai tellement vécu ma vie pour moi-même. Et maintenant, je suis fatigué et lassé de tout cela. Ça n'a plus de sens. Maintenant, je vais remettre toute ma vie entre tes mains. Sois le maître de ma vie, sois le pilote. Je ne serai plus sur pilote automatique. Je te laisse toi diriger ma vie. Conduis-moi là où tu voudras. Ce que tu voudras, ta volonté sera ma volonté. Ton agenda sera mon agenda. Ton plan sera mon plan. Là où tu serais, je serai. Là où tu voudras que je sois, je serai. Alors, lave-moi, pardonne-moi de toutes mes iniquités. Et la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est l'assurance que Dieu donne, l'assurance du pardon. Ton péché n'est pas assez grand et assez fort que Dieu ne peut pas pardonner. Quelle que soit la grosseur de ton péché, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa profondeur, ce matin, Dieu peut te pardonner. Et il veut te pardonner. Maintenant, est-ce que tu veux accepter cela? Est-ce que tu veux accepter le pardon de Dieu pour faire partir de sa famille et être régénéré et être né de nouveau? Pour terminer, cette semaine, après ma rencontre avec mon frère Stéphane Demers, mardi, je rentrais chez moi et j'écoutais à la radio une émission qu'on disait « Les grands entretiens ». Qui se faisait avec Stéphane Garneau à la Radio-Canada. J'écoutais ça dans l'auto. Vous savez qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu M. Richard Martineau parler. Richard Martineau qui est un homme, un grand chroniqueur du journal de Montréal et qui anime dans LCN, mais aussi, en même temps, qui fait l'émission, comment on appelle là son nom, j'avais ça tout à l'heure en tête. Les Francs-Tireurs, c'est ça. Francs-Tireurs. Et dans la discussion, il avait dit qu'il était allé rendre visite à un de ses amis qui était mourant, qui s'appelle Stéphane aussi, qui s'appelle Richard. Il était en phase finale de cancer. Et quand il est sorti de là, il était troublé. Il dit, j'ai une peur bleue de la mort. J'ai peur de mourir dans mon sommeil. Je me réveille la nuit, je transpire, je suis angoissé. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Et j'ai envie de ceux qui croient en Dieu. C'est ses paroles. Il dit, j'ai envie de ceux qui croient en Dieu. Au moins, eux, ils ont un espoir. Ils croient en quelque chose. Je veux croire, je ne suis pas capable. Je veux croire. Je dis, oui, tu es capable. J'écoutais, j'ai arrêté l'auto. Je répondais à la radio, oui, tu es capable, Martineau. Oui, tu es capable. Seulement dis, Seigneur, viens dans ma vie. J'ai envie de trouver l'adresse de cet homme et le rencontrer, parler de Dieu avec lui. Tu es capable. C'est Dieu qui donne la foi. Alors je vous demande à chacun de vous de prier pour cet homme désormais. Vous qui croyez, que Dieu lui donne la foi nécessaire qu'il a besoin pour croire en lui. Parce que la solution à son problème, comme il a dit, c'est mon problème. Mais je dis, oui, c'est ton problème, mais Dieu a une solution à ton problème. C'est la foi en Jésus-Christ. Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la... Quiconque, peu importe ton sexe, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ta race, peu importe la communauté dans laquelle tu es, peu importe ton ethnie, la Bible dit quiconque, le quiconque place ton nom, le quiconque place ton ethnie, le quiconque place ton rang social dedans et tu deviens enfant de Dieu. Quiconque, si tu es un pécheur, quelle que soit la grosseur de ton péché, la grandeur de ton péché, la profondeur de ton péché, ce verset te dit, si tu places ta confiance, la foi n'est rien d'autre qu'une confiance qu'on met en Dieu. Alors si tu crois à cela, la Bible nous dit que tu deviens enfant de Dieu. Et il garantit, il n'a pas dit à peu près, il n'a pas dit peut-être, il dit qu'il ait la vie éternelle. Il ne dit pas, peut-être tu l'auras. Je ne suis pas certain, peut-être. Non, non, non. Il dit, je te donne la vie éternelle. Et ces paroles ont transformé ma vie. Elles ont transformé la vie de certains d'entre vous. Ce matin, mon frère, veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Si cela t'intéresse, nous sommes plusieurs responsables. Il y a Stéphane Demers ici. J'aimerais que Stéphane, Benoît, vous vous tenez debout. Deningue, vous vous tenez debout. Et je demande à notre frère Trevor, lève-toi s'il te plaît. Il y a des anciens... Non, tu n'as pas vu là. On ne vous a pas vu, tenez-vous debout. Et il y a des responsables que vous pourrez contacter après la prière. Et moi-même aussi. Et d'autres frères ici qui pourront vous aider à prendre un engagement et à marcher pour Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Toi qui appelles et qui changes les vies, ce matin tu nous as transformés, tu nous as appelés en toi et nous avons cru en toi. Et ce matin nous venons d'être témoins de deux jeunes filles qui viennent de s'engager pour toi. Nous prions pour elles et qu'elles continuent de marcher pour toi. Que leur décision ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, que leur décision soit une décision solide, qui tient debout dans l'adversité et qui vont persévérer pour ta gloire. Seigneur, nous autres qui sommes des vieux chrétiens, renouvelle-nous, fortifie-nous. Là où nous sommes tombés, relève-nous. Là où nous sommes découragés, encourage-nous. Bâtis ton église et relève ton peuple pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse.